C'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Evelyne Fontane, à chaque dimanche, midi, 13h, sur RCF.
Bienvenue à tous dans ce 8e numéro de C'est votre jour de science. Une heure de partage de la connaissance sur France Bleu RCFM avec Evelyne Fontane à mes côtés. Salut Evelyne.
Bonjour Fabrice.
Chaque dimanche, vous connaissez maintenant le principe, un thème fort et des invités prestigieux. Cette semaine, avec ma comparse, on a décidé de consacrer une émission entière aux déchets, à leur histoire, à leur place dans nos sociétés, mais aussi évidemment aux solutions que nous offre aujourd'hui la science pour mieux les connaître, les valoriser et arrêter peut-être de culpabiliser à leur égard. Pour faire le point sur ce sujet ô combien d'actualité et particulièrement dans notre île, nous recevrons par téléphone dans quelques poignées de secondes Christian Duquesnois, ingénieur-chercheur à l'IRSTEA, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture, physicien de formation, spécialiste de la valorisation des déchets et auteur notamment d'un ouvrage aussi utile qu'original, on s'est régalé à le lire. Il s'appelle « Les déchets du Big Bang à nos jours », paru l'an dernier aux éditions Quae. Mais juste avant, chère Evelyne, est-ce que les neurones se sont agités cette semaine ?
Ça a été dur, je n'ai pas trouvé et je veux absolument la réponse à l'énigme de la semaine dernière.
Et figurez-vous que c'est la première fois qu'on atteint autant de bons scores du côté des auditeurs, c'est-à-dire de bonnes réponses. Mais la plus rapide était Marie-Hélène de Follet, qui a répondu en 6 minutes. Un beau temps de réaction sur l'énigme. C'était en compagnie de l'invité Christian-Georges Schwetzel. Elle remporte donc son livre « Cléopâtre, la déesse reine ». Rappelez-vous, on cherchait une divinité égyptienne qui répondait à cette définition. « Je m'époumonne à garder les défunts, tel un heureux papillon sans ailes. » La bonne réponse était « Happy ». Apparaissant sous les traits d'un babouin, une espèce de singe faisant partie du genre papillon, P-A-P-I-O-N, papillon sans ailes. C'est donc Happy, qui veut dire heureux en anglais, qui était la divinité égyptienne chargée de garder les poumons des morts. D'où l'énigme « Je m'époumonne » à garder les défunts, tel un heureux papillon, une sorte de singe donc, sans ailes. Tout s'éclaire.
Mais restez avec nous et surtout ne papillonnez pas.
Pas trop quand même, oui.
Pas trop. On va retrouver notre expert tout de suite.
Allez, on y va.
Allez, comme prévu, on va essayer de mieux comprendre comment sont produits nos déchets et ce que la science peut aujourd'hui apporter comme solution pour résoudre un problème d'envergure mondiale. Pour en parler avec nous par téléphone depuis les bureaux de l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture d'Antony en région parisienne, Christian Duquesnois, avec qui nous allons passer toute l'émission. Physicien de formation, chercheur en rudosciences, nous allons d'ailleurs définir avec lui ce mot que je ne connaissais pas, et il étudie dans son laboratoire les systèmes produisant les déchets de toute nature et travaille à la mise au point de procédés de traitement qui n'existent pas encore dans l'industrie. Il est passionné d'archéologie, de sciences humaines, mais aussi de biologie, de thermodynamique et de cosmologie. Et il trouve ainsi dans nos poubelles un domaine de recherche foisonnant dont il peut partager et veut partager la profondeur et la portée universelle. Il y a eu ce livre dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Fabrice, « Les déchets du Big Bang à nos jours ». Je crois qu'il a reçu 2 prix et on le retrouve aux éditions Quae. Fabrice, autant dire que nous avons aujourd'hui le meilleur expert en notre compagnie dans cette émission pour traiter des déchets. Christian Duquesnois, bonjour.
Bonjour Evelyne, bonjour, bonjour Fabrice.
Le plus intéressant aussi et le plus sympathique des spécialistes des déchets. On le connaît bien Christian, bonjour à vous.
Bonjour.
Bon, on a une première question Christian, puisqu'on parle de déchets et qu'on aime bien l'histoire aussi dans C'est votre jour de science. Est-ce qu'on peut avoir une notion de quand dateraient les premiers déchets dans votre ouvrage notamment ? Vous parlez de poussière d'étoiles.
On a les premiers déchets qui apparaissent dans l'univers avec les premières grandes structures un peu complexes de l'univers que sont les étoiles. Alors, ce n'est pas tout à fait au moment du Big Bang. Hein. On parle des déchets du Big Bang à nos jours dans le titre de mon livre, mais c'est une petite approximation. En fait, les premières étoiles, les astrophysiciens nous disent qu'elles apparaissent à peu près 100 millions d'années après le Big Bang. Donc, c'était difficile de faire un titre qui commence par les déchets de 100 millions d'années après le Big Bang.
Ça
ne
tient pas sur
donc,
une couverture.
On a fait une petite approximation et je demande aux astrophysiciens de bien vouloir m'en excuser. Ces premières étoiles, aussi étonnant que ça puisse nous paraître quand on y réfléchit de prime abord, produisaient déjà des déchets pour leur système, ce grand système complexe qui est une étoile, eh bien, il y a déjà des déchets qui sont produits.
Ça, c'est intéressant parce que ça nous amène là vers les plus lointaines profondeurs du cosmos. Si on devait reparler un petit peu d'échelle humaine, est-ce qu'on sait si l'homme, un jour, par exemple, avant de trouver cela plutôt dégoûtant, on le verra peut-être un peu plus tard dans l'émission, a pu honorer ses déchets ?
Alors, l'homme déjà produit des déchets depuis la nuit des temps, même avant qu'il soit un homme, puisqu'on produit tous, en tant qu'êtres vivants, des déchets qu'on appelle les déchets métaboliques, qui sont les déchets produits par notre fonctionnement d'être vivant, ce qu'on appelle le métabolisme. Et puis, l'être humain est quelqu'un d'un peu, un peu particulier dans l'évolution, un animal un peu particulier, qui est un animal technologue. Bien avant même d'être Homo sapiens, on le sait maintenant grâce à l'anthropologie, à la paléoanthropologie, à l'archéologie. Nos ancêtres néandertaliens produisaient déjà eux-mêmes des outils et nous on produit des outils depuis la nuit des temps. On est donc des technologues fabricants de déchets technologiques depuis la nuit des temps. On a des traces assez fascinantes à une époque qu'on appelle le Mésolithique en Europe et à peu près à la même époque, c'est-à-dire plusieurs milliers d'années avant notre ère, entre 10 000, 5 000, jusqu'à quelques siècles avant notre ère, on a des sociétés qui sont encore des sociétés de chasseurs-cueilleurs un peu partout autour de la planète, qui ne sont pas encore des agriculteurs et des éleveurs, et qui vivent dans un environnement qui ressemble beaucoup au nôtre. Les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, ce ne sont pas que des chasseurs de rennes dans des steppes arctiques. À cette époque, quelques milliers d'années avant notre ère, on a un climat qui commence à ressembler au nôtre, avec un réchauffement après les périodes glaciaires. Ces populations vont se répartir en particulier le long des cours d'eau et sur le littoral, parce que la forêt commence à envahir tous les territoires et la circulation et la vie est plus simple au bord des cours d'eau et sur le littoral. Et au bord du littoral en particulier, au bord de mer, on trouve des amoncellements de coquilles qui sont le résultat de la chasse aux coquillages, à la cueillette des coquillages par nos ancêtres. Et les coquilles vont s'entasser et souvent, on observe que, loin d'être des charges comme on pourrait le faire de nos jours, ces amoncellements vont être considérés comme de véritables monuments par nos ancêtres. On va y enterrer les morts en grande pompe et on va parfois y construire aussi les villages. Et dans certains cas, les archéologues nous montrent que nos ancêtres sont allés dérober des coquillages sur le tas du voisin pour agrandir le leur et montrer leur puissance.
Je suis sûr que nos auditeurs auront un rebond sur l'îlot des pêcheurs qu'on connaît en Corse du côté de l'étang de Diane. Vers Alère, il y a cet ancien port romain où là aussi, 400 mètres, on dira, de pourtour de ce petit îlot est composé de coquilles d'huîtres, pour le coup de l'époque antique. Alors on a ça chez nous, ces déchets qui ont produit carrément un îlot. Peut-on donner d'ailleurs, Christian Duquesnois, puisqu'on a prononcé plusieurs fois ce mot, une définition valable aux déchets?
Alors, on a déjà des définitions valables qui existent dans la réglementation, mais ce sont des définitions qui ne s'appliquent qu'aux déchets des activités humaines. Ce ne sont pas des définitions scientifiques, et ce qu'on essaie de faire en ce moment, en tout cas en quoi je m'évertue, c'est de trouver une définition plus scientifique, plus universelle, parce que on l'a vu, la notion de déchet n'est pas le propre de l'espèce humaine. Tous les êtres vivants produisent des déchets métaboliques, et tous les systèmes complexes de l'univers produisent des déchets. Donc on peut tenter une définition plus universel, qui aurait pour intérêt d'asseoir scientifiquement des notions comme, par exemple, l'éco-inspiration. Comment on peut s'inspirer de la façon dont les écosystèmes traitent leurs déchets? Est-ce qu'il y a un fondement scientifique réel à faire cette analogie? Et puis, pour répondre à des questions importantes comme que faire de nos déchets? Les déchets, le zéro déchet est-il possible?
On entend effectivement dire que la nature produit des déchets, mais que rien ne se perd, qu'il n'y a pas de chômage dans les forêts, que tout est recyclé, en tout cas par des mycorhizes, par des insectes, des champignons, les feuilles qui tombent et que le sol absorbe des bactéries. Est-ce que c'est là véritablement un exemple que l'homme peut suivre ?
C'est un exemple que l'homme commence à suivre d'ailleurs. Non seulement on peut, mais on le doit, on pourra y revenir. Et on commence à le faire avec ce qu'on appelle l'économie circulaire, qui est un concept éco-inspiré. On sait que les écosystèmes les plus matures, ceux qui sont les plus résilients, les plus durables, fonctionnent sur une économie circulaire et non pas une économie linéaire. Alors très rapidement, une économie linéaire, c'est un peu la nôtre depuis en tout cas la révolution industrielle. On se dépêche de puiser dans les ressources naturelles, voire de les épuiser, pour transformer cette matière et cette énergie et on la transforme la plupart du temps en déchets dont on ne fait rien, qu'on va chercher à éliminer. Et là, l'élimination, on pourrait y revenir, c'est un mythe absolu. Rien ne se perd, rien ne se crée, comme vous le disiez, Fabrice. Et les déchets ne s'éliminent pas par magie. Les écosystèmes qui fonctionnent sur ce modèle linéaire, c'est ce qu'on appelle des écosystèmes pionniers. Mmh. Eux vont travailler sur cet épuisement rapide des ressources le plus rapidement possible avec des compétitions entre espèces. Mais on sait que ce sont des systèmes qui ne sont pas durables, qui vont être remplacés tôt ou tard par d'autres systèmes qui, eux, vont fonctionner sur la circularité, c'est-à-dire, comme vous le disiez, où personne ne chôme, les déchets des uns deviennent les ressources des autres et le système est vertueux parce qu'il y a un grand danger au système linéaire, c'est de finalement d'épuiser les ressources et de les remplacer par des déchets.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papilles,
un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
Benabar sur les ondes d'RCFM, restez avec nous, vous êtes dans C'est votre jour de science.
C'est votre jour de science, l'expert.
Et notre expert, c'est Christian Duquenois, spécialiste de la valorisation des déchets. Et c'est vrai que Christian, on se disait que peut-être que les chiffres sont parlants pour exposer un petit peu ce problème mondial aujourd'hui. Et on se posait la question avec Fabrice de savoir s'il y avait des pays qui étaient des bons élèves aujourd'hui.
Ben oui, oui, les meilleurs élèves, ce sont les pays qui sont les moins riches. Et les moins bons élèves, c'est nous, c'est les pays développés, c'est les pays riches.
Ouais.
On consomme. Et évidemment, les déchets, c'est le simple reflet de nos activités, de notre consommation, si bien dans leur composition, qui est aussi complexe que nos productions industrielles, et en quantité, qui est à la mesure de ce qu'on consomme et de nos habitudes de consommation. Alors, quelques chiffres pour l'illustrer. On sait aujourd'hui qu'en moyenne, chaque habitant de la planète produit, bon an mal an, 2 tonnes de déchets chaque année. Et là, on parle de tous les déchets confondus, pas uniquement les ordures ménagères, mais aussi les déchets agricoles, les déchets du bâtiment, des travaux publics et les déchets des industries. 2 tonnes par an et par habitant de la planète quand on fait la moyenne. Mais évidemment, cette production, elle n'est pas homogène et les pays riches produisent beaucoup plus que les pays pauvres. Chaque Français produit en moyenne 12 tonnes de déchets par an, à comparer à ces 2 tonnes de moyenne mondiale. Dans certains pays en développement, c'est moins d'une tonne par an, c'est quelques centaines de kilos, à peu près à la manière de nos ancêtres il y a quelques siècles. Donc on voit que le déchet est le marqueur même de nos activités et de notre niveau de vie.
Et la géographie du déchet, est-ce qu'on sait par exemple que des pays très développés peuvent les envoyer là où ils ne les voient pas et très loin chez d'autres qui pour autant, eux, n'en produisent pas beaucoup ?
Ah bien sûr, ça c'est un problème très aigu d'exportation de déchets qui est quelque chose de totalement illégal, mais qui est malgré tout observé à différentes échelles et avec parfois des façons de contourner la loi. Par exemple, quand on exporte du matériel informatique usagé, on l'exporte sous le couvert souvent de matériel d'occasion qui peut être réutilisé dans des pays en développement, mais on voit ce que ça donne sur des sites comme des décharges au Ghana, par exemple, où on a tous en tête, ou presque, ces images de jeunes gens qui récupèrent des métaux, qui récupèrent du plastique en faisant fondre les cartes mères et qui respirent des gaz très toxiques.
Et vous parliez de toxicité, justement. Est-ce qu'il y a une catégorie dans laquelle peuvent rentrer chaque déchet ?
Alors, les déchets sont classés selon la législation, en particulier en France, mais c'est aussi une législation qui répond à des normes européennes. Et il est absolument indispensable de les classer parce que le nom déchet, finalement, c'est une notion assez théorique.
Oui, on a vu.
On a parlé de cette définition, on pourrait y revenir. Mais c'est pas quelque chose qui a un sens intrinsèque à la matière. Il n'y a aucune molécule qui possède l'étiquette déchet et aucun atome sur lequel on a gravé déchet. Pratiquement toutes les matières, tous les atomes, toutes les molécules vont se retrouver dans les déchets. Et ce qui est souvent embêtant quand on gère les déchets, c'est les mélanges. Et ce qu'on va essayer de faire, en général, c'est de trier au maximum les déchets, de les ranger dans des catégories pour les diriger vers des filières dédiées à chaque type de déchets, à chaque nature, à chaque composition de déchets. Par exemple, on parle beaucoup de biodéchets depuis quelques temps, donc tous ces déchets qui, dans notre poubelle, proviennent de notre gaspillage alimentaire, des épluchures de légumes, etc., qui vont pouvoir se dégrader, être valorisés, par exemple en compost. Et puis à l'autre bout de la chaîne des catégories de déchets, on peut imaginer les déchets nucléaires qui sont produits en bien moins grande quantité que les autres déchets, mais qui sont de véritables concentrés de problèmes, de menaces, de dangers, et qu'il faut traiter évidemment et gérer de façon absolument spécifique.
Christian Duquenoy, vous disiez qu'il fallait trier, bien sûr, mais est-ce qu'on sait éliminer tous ces déchets ?
Alors, on n'élimine jamais les déchets. Ce qu'on appelle l'élimination, dans le jargon des spécialistes du traitement, de la gestion des déchets, c'est l'incinération ou la mise en décharge. Mais on n'élimine jamais rien, c'est un mythe absolu. On n'élimine pas la matière, ni l'énergie d'ailleurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et croire qu'on élimine les déchets en les stockant ou en les incinérant, c'est un peu comme balayer la poussière et la mettre sous le tapis.
Alors c'est intéressant du coup parce qu'on vous tient, on a là quelqu'un qui travaille au quotidien peut-être sur des solutions pour demain. Est-ce que vous pensez que scientifiquement, peut-être chimiquement, vous allez nous répondre, on peut un jour parvenir à éliminer définitivement ces déchets et à quel prix ?
Alors on peut imaginer, non pas les éliminer encore une fois, mais les transformer. Il y a il y a une hiérarchie des priorités. Ce qu'on considère généralement, et à juste titre, c'est que c'est la réduction de la quantité de déchets qui est la première priorité. Parce que finalement, le déchet qu'on peut éliminer, bah, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein. Il est éliminé d'avance, lui. Le meilleur déchet, c'est ce que martèlent des agences comme l'ADEME, des associations comme Zéro Déchet, que le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Parce qu'effectivement, le déchet que l'on fait le mieux dégénérer, c'est celui qui n'existe pas. Donc, la première des priorités, c'est la réduction. La seconde priorité, c'est la réutilisation, le réemploi. C'est en fait ne pas transformer la matière, mais garder les mêmes objets pour le même usage en les remettant en marche, par exemple en les réparant, en les remettant dans le circuit de l'utilisation et de la consommation, ou en récupérant les composants sans changer la nature de la matière pour les réassembler dans d'autres objets. Et puis, en troisième rideau, c'est le recyclage. Et en troisième rideau seulement, parce que recycler, ça coûte cher en énergie et ça produit parfois aussi des déchets, hein, des déchets du processus de transformation de cette matière quand on va la recycler. Et finalement, c'est loin d'être la meilleure des solutions, le recyclage. C'est meilleur qu'utiliser des ressources naturelles directement. Et d'entasser des déchets, évidemment, c'est une bien meilleure solution de recycler. Mais dans tout l'arsenal dont on dispose quand on fait quand on met en place des plans d'économie circulaire, de développement durable, mais finalement, le recyclage n'arrive qu'en troisième position derrière la réduction, le réemploi et la réutilisation.
Et vous parliez de chimie verte. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur cette possibilité ?
Alors la chimie verte, c'est une branche de la chimie, et en particulier de la chimie industrielle, qui se met en place depuis au moins une ou deux décennies, et qui a pour objectif de remplacer tous les produits issus de la distillation et de la transformation du pétrole ou des gaz de schiste, en tout cas de matières fossiles, et de les remplacer par de la chimie du vivant en particulier, en utilisant la matière issue du vivant qui sont dans les biodéchets. Et cette chimie verte se développe en particulier pour fabriquer des bioplastiques, pour remplacer les carburants par des biocarburants. On en a beaucoup parlé il y a quelques années et ça continue à se développer. Et puis, tout un cortège de produits chimiques qu'on utilise, par exemple, dans les peintures, dans les vernis, dans les colles, dans tout ce qui fait notre quotidien, dans tout ce qui nous entoure, à partir de matériaux qu'on appelle des matières biosourcées, parce que issues du vivant et donc renouvelables.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore?
Retour dans C'est votre jour de chance avec notre expert tout de suite.
C'est votre jour de science, l'expert.
Christian Duquenoy est avec nous. Depuis un petit moment, nous avons parlé avec lui de biodéchets. Est-ce que, selon vous, Christian, le compostage serait la solution miracle ?
Ah, en matière de déchets, la solution miracle, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'y crois pas. C'est un mythe, un peu comme le mythe de l'élimination. Et je pense que plutôt que mettre tous ces œufs dans le même panier avec une solution qui apparaît miraculeuse, qu'on croit miraculeuse, il vaudrait mieux multiplier des solutions, comme le font d'ailleurs les écosystèmes, hein, avec la biodiversité. Il n'y a pas qu'un seul organisme vivant qui traite les déchets des autres en étant l'organisme miracle. Non, on a toute une cohorte d'organismes qui vont prendre le relais les uns des autres, hein, depuis la plus petite bactérie jusqu'à les larves d'insectes qui vont se nourrir de déchets.
Vous parliez de compostage qui ne serait donc pas la solution miracle parce qu'il faut les multiplier. Des exemples très concrets de solutions qui seraient complémentaires ?
Ce qui fait la popularité du compostage, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose de simple, hein, de low-tech. C'est adapté à de nombreux contextes, hein, depuis la mise en place dans un petit jardin individuel, voire même chez soi, dans un appartement, sur un balcon avec le lombricompostage, jusqu'à l'échelle d'un quartier, et même jusqu'à l'échelle industrielle. Donc, c'est, à ma connaissance, c'est le seul procédé de valorisation des déchets qui est ainsi autant multi-échelle. Mais ce n'est pas une solution miracle parce que, malgré tout, le compostage peut présenter des inconvénients quand il est mal fait. Si on n'aère pas assez, par exemple, le compost va émettre des gaz à effet de serre, du méthane et possiblement aussi du protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre beaucoup plus puissants que le dioxyde de carbone, que le gaz carbonique, le CO2 dont on parle souvent quand on parle de gaz à effet de serre. Et ce compostage qui paraît assez simple parce qu'on peut le faire avec les mains dans un jardin, eh bien en fait c'est tout un art, hein. D'ailleurs, on a un diplôme de maître composteur qui existe en France qui montre bien que ça ne s'improvise pas non plus aussi simplement qu'on le croit.
Et les autres solutions donc du coup concrètes qui pourraient être complémentaire.
Pour traiter le même type de déchets, hein, finalement, ces biodéchets dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi un autre procédé, certes plus industriel, qui s'appelle la méthanisation, qui consiste à faire travailler des micro-organismes, un peu comme dans le compostage, mais cette fois en l'absence d'oxygène, alors que pour faire un bon compost, il faut l'aérer, il faut que les micro-organismes aient accès à de l'oxygène. Dans la méthanisation, c'est le contraire. L'oxygène serait toxique pour les bactéries et ce qu'on appelle des archées, qui sont une autre branche du vivant qui ressemble un peu aux bactéries, mais qui est une branche différente, qui vont produire du méthane et du gaz carbonique en mélange, ce qu'on appelle le biogaz, quand ces micro-organismes vont travailler en anaérobie, en absence d'oxygène. L'intérêt de ce procédé, c'est qu'on contrôle parfaitement les émissions de gaz, puisqu'on va faire fonctionner la méthanisation dans une cuve, dans un réacteur fermé. On va récupérer tous les gaz et on va les valoriser. Et puis, alors ça, ce sont des technologies, hein, de méthanisation qui sont arrivées à un stade de maturité industrielle, qui se développent de plus en plus. Et en particulier, on voit arriver aussi de la méthanisation à petite échelle, ce qu'on appelle de la micro-méthanisation. Il y a quelques années, on pensait que la méthanisation s'était réservée à de grosses unités, des coopératives agricoles, des groupes d'agriculteurs qui peuvent se regrouper pour gérer un méthaniseur, pour transformer leurs déchets agricoles en méthane, ou des grosses solutions, des grosses plateformes industrielles. On en vient petit à petit à des expériences à l'échelle, par exemple, d'une restauration d'entreprise, d'un fast-food, où on peut avoir des petites unités de méthanisation qui sont mises en place, qui vont se rapprocher finalement de la production de déchets au plus près, en une espèce de circuit court de la gestion des déchets. D'autres solutions, d'autres procédés sont expérimentés dans les laboratoires. Par exemple, nous ici à IRSTEA, à Antony, dans mon labo, on travaille sur des technologies qui font partie de ce qu'on appelle les bioraffineries environnementales. Alors environnementales, parce qu'on utilise des déchets comme matière première, des biodéchets dans notre cas. On les appelle raffineries parce qu'on cherche à transformer ces déchets en matière de substitution aux produits pétroliers, hein, comme on disait tout à l'heure à propos de la chimie verte. Et bio, raffinerie parce qu'on fait travailler des micro-organismes, des bactéries en particulier. Et nous, on travaille avec une technologie particulière où on utilise l'électricité pour orienter le métabolisme des bactéries dans un projet qui s'appelle le projet BioRare, qui a été financé par le programme Investissement d'Avenir, donc de l'argent public hein, qui pousse vers ces innovations au laboratoire.
Christian Duquenoy, nous allons vous proposer tout de suite une question qui a été déposée sur le site de RCFM.
C'est votre jour de science, les petits curieux.
Et c'est le petit Franchet qui vous demande si un déchet, c'est selon vous, toujours très sale.
Non, bien entendu, les déchets, c'est rarement très sale. Et quand on les trouve sales, souvent, c'est parce que c'est mélangé. Hein. C'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, le mélange, c'est là d'où vient souvent le problème. Imaginez votre poubelle, ce que vous trouvez repoussant, souvent ce que vous trouvez sale, c'est parce que vous avez des plastiques tout chiffonnés, des papiers tout chiffonnés, mélangés avec les épluchures de légumes, avec le gaspillage de votre assiette que vous n'avez pas terminé. Tout ça se colle les uns aux autres et on a l'impression que c'est sale. Mais finalement, non, parce que le plastique, avant de finir dans la poubelle, c'était le bel emballage qui vous avait séduit quand il était dans le rayon du magasin. Les épluchures de carottes, elles vous ont séduite quand vous avez vu cette belle botte de carottes là aussi chez votre marchand de légumes. Et c'était pas sale au départ. Donc ce qui fait le sale, c'est le fait de se retrouver en mélange dans la poubelle.
Et pourtant c'est vrai, pardon Christian, que le déchet attire plutôt le dégoût et le mépris du plus grand nombre, y compris peut-être au sein de la communauté scientifique, je ne parle pas de la vôtre, mais on a prononcé en introduction le terme de rudologue, c'est assez récent comme science.
Alors la rudologie, ça a émergé dans les années 70. C'est un terme qui a été inventé par un chercheur qui s'appelait Jean Gouillet, qui a été le premier à militer pour l'émergence de cette nouvelle science. Alors la rudologie, c'est une branche particulière de la science des déchets. C'est une approche plutôt de dans les disciplines des sciences humaines. Jean Gouillet était géographe. Le département de rudologie qu'il a créé et l'enseignement de rudologie qu'il a créé à l'Université du Mans, fait partie d'un département de géographie. Donc moi, je ne suis pas du tout géographe. Comme vous le disiez, je suis de formation physicien. Et pourtant, je travaille sur les déchets, comme de nombreux autres physiciens, comme des biologistes, comme des anthropologues, on l'a vu, et des archéologues qui, finalement, travaillent souvent dans les déchets. Quand on fouille un site, c'est souvent les déchets des civilisations qui nous ont précédés que l'on fouille. Et bien tous ces gens finalement qui travaillent souvent sans le savoir et sans le dire dans les déchets pourraient former une grande communauté qu'on pourrait nommer les rudosciences.
Ça c'est vraiment des termes nouveaux, ça nous fait du bien de les entendre, hein. Ça nous emmène vers des endroits qu'on ne connaît pas. On va se retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien, cher Christian. J'espère que nos auditeurs, tout comme nous, trouvent qu'il n'y a rien à jeter dans notre entretien. Puis on va faire deux petites actus, tiens, avec Evelyne et on vous reprend juste après.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Et ma chronique aujourd'hui fera 2 minutes. C'est surprenant quand même comme approche.
C'est en tout cas hyper calibré, j'ai peur.
Mais oui, mais je suis tellement soulagée de savoir que vous l'écouterez jusqu'au bout. Je ne pensais pas que vous puissiez être déstabilisé par ma prestation, rêveur ou encore malpoli. Non, loin de moi ces idées-là. Mais voilà, le problème c'est que vous êtes un homme. Et une étude britannique, très sérieuse, croyez-moi, affirme que vous, gente masculine, vous êtes incapable d'écouter une femme plus de 6 minutes.
C'est déjà énorme, c'est... pas faux.
Ça vous surprend peut-être, mais ça a été prouvé. Vous décrochez quand nous vous parlons de shopping, sentiments, repas, régime, ragots, histoire de travail. D'où cette phrase récurrente qui vient marteler votre esprit. Tu écoutes, Fabrice, ce que je te dis.
Je l'entends tellement, si vous saviez comme c'est juste.
Mais rassurez-vous, cette faculté d'écoute est toutefois sélective car je peux multiplier cette attention par 3.
Ah, le secret.
À condition de vous parler cinéma,
cool, ouais.
Foot et sexe. Voilà. D'accord. Et là, vous serez tout oui. Oui, mais bon, c'est quand même pas évident d'aborder ces thématiques si captivantes dans l'émission C'est votre jour de science. Sauf à imaginer, par exemple, que nous traitions la semaine prochaine de l'histoire cinématographique d'un footballeur dont les prouesses physiques ont un impact sur la vie intime. Mais bon, on reportera ça. Mais bon, voyons le bon côté des choses. Vous me regardez toujours en hochant la tête et en souriant. 2 minutes. C'est pas mal, surtout quand on sait que vous auriez pu décrocher dès le départ si je vous avais mis en main une télécommande et un smartphone.
Pas faux.
Voilà.
C'était excellent et surtout hyper autobiographique me concernant. Je sais pas où est-ce qu'on allait puiser cette réalité. Alors non, moi de mon côté, du coup, c'est pas drôle du tout cette semaine. C'est pas drôle et ça peut même faire peur. Alors je préviens les auditeurs qui éloigneraient, s'ils ont le temps, les enfants, les petites oreilles qui écouteraient ce qui va suivre. Vous le savez peut-être, Evelyne, 2% de la planète seulement est habitée. Jusque-là, ça fait pas peur. Donc, si dans les jours qui viennent, vous vous prenez un morceau de station spatiale chinoise sur le bout du nez, c'est vraiment vous êtes très, très, très guignarde. Et pourtant, ça pourrait bien arriver à quelqu'un quelque part sur le globe. Car on vient d'apprendre que la vieille station spatiale chinoise Tiangong-1, en fin de vie, est lourde tout de même de 8 tonnes, n'est plus du tout sous contrôle. C'est d'ailleurs plus grave que cela, elle est en train de chuter lentement vers la Terre, sans qu'on sache déterminer où elle va exactement tomber. Alors bien sûr, une grosse partie va partir en fumée lors de son entrée dans l'atmosphère, mais des morceaux de plusieurs centaines de kilos pourraient quand même atteindre notre sol d'ici 2 à 3 mois selon les spécialistes, qui annoncent tout de même pouvoir préciser, allez, grosso modo, des points d'impact 4 à 5 jours avant que cela n'arrive. Ce qui est certain, c'est que cet engin qu'on ne contrôle plus ne rejoindra pas le cimetière des objets spatiaux dans des profondeurs de l'océan Pacifique. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un point qu'on appelle Nemo. C'est le point le plus isolé de la planète. Et là-bas, par 4 km de fond, du côté du Pacifique, on envoie séjourner pour l'éternité tous nos satellites et toutes les séries d'appareils spatiaux, bons pour la réforme, comme la station Mir, par exemple. Bon, on est loin du recyclage. Faudrait presque voir ce qu'en pense notre invité Christian Duquesnoy. Pas de cimetière marin, donc, pour notre station spatiale chinoise qui préférera goûter au sol de notre bonne vieille Terre, en espérant vraiment que ce soit le plus loin possible de vous, chère Evelyne. Serait trop dommage, par exemple, que le souffle de cet objet céleste tombant à vos pieds, allez, ne serait-ce que vous décoiffe un petit peu.
J'adore, j'adore.
C'est votre jour de science, l'expert.
On revient de manière beaucoup plus sérieuse avec notre invité Christian Duquesnoy. On l'a quitté tout à l'heure, juste avant de parler de temps d'attention masculine et de station qui allait nous tomber sur le bout du nez, eh bien de rudologie, de rudoscience. Est-ce qu'on peut repréciser un petit peu cette matière-là, cher Christian ?
Ah oui, oui, avec grand plaisir. Après, ces déchets qui viennent de l'espace, hein, qui sont en orbite et qui vont nous retomber dessus. Voilà. Revenons à des définitions. Ben, la rudologie, on en a parlé. C'est donc une discipline qui va s'intéresser aux circuits, aux aménagements territoriaux en matière de gestion et de traitement des déchets. Donc, ça va aussi former des praticiens. Et puis, à l'autre bout du spectre de ces rudosciences, on a des approches très, très théoriques qui peuvent être au carrefour de disciplines. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas nouveau, hein. Vous parliez tout à l'heure à mon égard d'un grand spécialiste. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Je ne suis pas le seul, bien évidemment, et certainement pas le premier. J'ai sous les yeux un livre qui a été écrit en 1998 par Cyril Harpet aux éditions L'Harmattan, qui est issu de sa thèse de doctorat. Et il y disait, en parlant des déchets, « Mais n'y a-t-il pas là, enfin, le meilleur objet susceptible de favoriser la constitution d'une véritable communauté scientifique travaillant de concert ? Le déchet, plutôt que de diviser, n'est-il pas l'objet universel à même de susciter une synergie pluridisciplinaire ?» C'est vraiment, je pense que je vais afficher ces deux phrases à l'entrée de mon bureau, parce que c'est vraiment ce qui me semble actuellement le plus important, le plus nécessaire, probablement en ce qui concerne les déchets, de pouvoir mettre autour de la table des scientifiques de différentes disciplines pour essayer d'imaginer des solutions monde du futur, alors qu'on expérimente dans les laboratoires, qu'on expérimente au coin de la rue, qu'on expérimente dans les entreprises. Mais finalement, ce qui manque le plus, c'est une fédération de tous ces efforts. Et pour moi, le cadre de la méthode scientifique est le cadre idéal pour fédérer ces énergies-là.
Vous parliez de mettre autour de la table des scientifiques. Encore faut-il qu'ils ne soient pas dégoûtés par cette matière.
Absolument, mais c'est en particulier pour ça que c'est une science qui n'existe pas encore et que cette fédération des énergies des chercheurs n'existe pas encore. C'est que pour beaucoup, le déchet est quelque chose, finalement, un objet de recherche qui n'est pas assez noble. Je citerai aussi un grand ancien, hein, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui s'appelle Alain Navarro, qui était professeur à l'INSA de Lyon, qui est aujourd'hui à la retraite, et qui raconte des anecdotes fabuleuses à propos de ses débuts ses débuts de carrière en tant que chercheur dans le domaine des déchets. Alors lui est chimiste, hein, donc c'est le pionnier des recherches sur les procédés de valorisation des déchets de l'industrie chimique. Il disait qu'au début de sa carrière, tous ses condisciples le regardaient d'un peu haut en disant « Mais on ne comprend pas, tu es quelqu'un de brillant, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à quelque chose d'aussi trivial, d'aussi méprisable que les déchets ?» Et lui avait déjà été un peu visionnaire, hein, puisque pour lui, c'était vraiment quelque chose de fondamental dans nos sociétés et pour notre avenir. Et malgré tout, même si on est tous conscients que les déchets, c'est au cœur des préoccupations pour l'avenir de nos sociétés, pour l'avenir de la planète, on a malgré tout une certaine réticence pour traiter ce sujet-là comme un sujet sérieux.
Une société zéro déchet, vous croyez que c'est possible pour l'avenir ?
Alors ça, c'est une des grandes questions, c'est peut-être même la grande question qu'on se pose tous actuellement et qui justifie pleinement cette envie, cette nécessité de fédérer les efforts des scientifiques. Parce qu'on peut effectivement, quand on regarde le monde autour de nous, se dire que c'est pas possible, c'est trop compliqué, on voit que pour progresser dans la proportion de matière que l'on va recycler, c'est quelque chose qui se met en place de façon très très lente. Et finalement, est-ce qu'on va réussir à rattraper avec ces volontés d'aller vers de l'économie circulaire, est-ce qu'on va rattraper la fuite en avant de la croissance démographique, de l'industrialisation, du développement des pays émergents? Et on pourrait imaginer que c'est pas possible. Et d'un autre côté, on a des mouvements de citoyens, des associations, des militants, des gens qui disent oui, c'est possible et qui le démontrent par la pratique, qui montre que réduire ses déchets chez soi, c'est pratique, qui démontre que on pousse vers l'éco-conception, vers l'imagination de produits qui peuvent se recycler plus facilement, eh bien, on peut être plus optimiste. Je pense que la grande difficulté pour répondre à cette question, hein, je vais revenir sur cette notion centrale qui est la définition même du mot déchet et tout ce que ça implique derrière, c'est vraiment là qu'il faut faire porter aussi nos efforts.
Et on parle de choses très concrètes aussi quand on évoque ces associations, ces citoyens qui jouent le jeu d'essayer de réduire leurs déchets. On achète en vrac et sans emballage dans les magasins. On peut se faire livrer des paniers de fruits et légumes en direct du producteur. Parfois, il y a des coûts qui sont derrière, pas toujours évident, mais on peut. Des bacs de tri à la maison, du compost, vous en parliez, dans le jardin, sur le balcon. De la lessive que certains refont d'ailleurs aujourd'hui avec des plantes, de la cendre, on le voit, du maquillage naturel, bricolé avec de la récup, recharger des piles plutôt que d'en racheter. Tout ça pour une économie, lit-on parfois, hein, de 15 litres de poubelle par mois, moins toxique, beaucoup d'économies, un sentiment exaltant d'être acteur d'une vie aussi où on essaie de préserver la planète. Tout ça, c'est complexe pour ceux qui n'auraient pas encore ces réflexes.
Alors, c'est plus compliqué que complexe. En tant que scientifique, on fait souvent la différence entre les systèmes complexes. On entendait la chanson de Benabar sur ce paradigme de l'aile de papillon. Ça, c'est caractéristique des systèmes complexes qu'on a un petit peu du mal à prévoir parce que avec une toute petite variation à l'instant T dans une petite région du système, ça peut faire changer complètement le comportement du système. On est plutôt, quand on va s'intéresser à nos comportements au quotidien, dans la complication. Mais cette complication-là, effectivement, il faut qu'on arrive à s'imprégner de la nécessité absolue de s'y attaquer. C'est compliqué, certes, mais ça en vaut la peine. Et puis, en tant que scientifique, regarder ces mouvements, cette société, on parle beaucoup de société en transition, et transition avec un S, parce qu'on a des transitions économiques, on voit qu'on a des transitions transition de nos politiques, de nos modes de vie. Les partis traditionnels sont en train de changer. On a des transitions de nos modes de vie, de notre, finalement, de notre conscience aussi planétaire et des enjeux posés à l'espèce humaine à l'échelle de la planète. Et pour un scientifique, un chercheur en rudosciences, comme je le suis, cette transition-là, elle ressemble beaucoup à ce qui se passe dans des écosystèmes. Les écosystèmes dont on parlait tout à l'heure, les écosystèmes linéaires qui se mettent en transition pour changer, pour aller vers plus de circularité. Et finalement, cette circularité, on la voit expérimentée au coin de la rue, dans des associations, dans des mouvements comme celui des Repair Cafés, des ressourceries, des jardins partagés où on composte. Et tout ça, c'est un ferment qui ne concerne pas que les déchets et que l'environnement, parce que c'est aussi un laboratoire de l'économie sociale et solidaire.
Et peut-être en un mot, du coup, le Graal qui serait le vôtre, Christian, dans votre domaine.
J'en ai deux, j'ai droit à deux Graal.
Vous avez droit. Evelyne, on lui donne le second.
Deux.
Deux, et donc en deux mots.
Alors, en deux mots, un Graal pratique en recherche technologique, aller vers des procédés dont on a parlé, qui font travailler le vivant, et des procédés qu'on cherche à être frugaux en termes de consommation d'énergie. On a là aussi quelque chose dont on a finalement peu parlé, on a parlé beaucoup de matière, mais l'énergie est aussi quelque chose de fondamental. Et puis un Graal théorique, je le répète, cette nécessité de fédérer des approches scientifiques autour de la notion de déchets et en multipliant les dialogues entre disciplines scientifiques.
Christian Duquesnoy, merci d'avoir été avec nous, ça a été un vrai plaisir.
Merci Fabrice. Merci beaucoup Evelyne et Fabrice.
Un homme fabuleux, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Fabrice,
au plaisir de vous rencontrer.
Grand plaisir.
À bientôt Christian.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir, merci.
C'est votre jour de science. Ça se passe chez nous.
Et je voulais absolument vous en parler, un livre de découvertes et d'anecdotes qui nous permet d'aimer apprendre et de plonger dans le monde végétal des plantes et des hommes aux éditions Galéa. C'est signé par un certain Fabrice Fenouillère.
Je ne connais pas.
Vous connaissez pas ?
Non, non.
Écoutez, c'est simple, c'est le résumé de 4 ans de chroniques sur les ondes RCFM qu'on a pris un plaisir fou à écouter et qu'on va pouvoir désormais lire sans modération quand on le souhaite, pour voyager de notre île aux contrées les plus lointaines, entre science, histoire, géographie, croyances, us et coutumes. C'est mon livre de chevet et c'est en tout cas chez votre libraire.
C'est votre jour de science, la semaine prochaine.
Je ne connais pas ce garçon dont vous
il
parlez.
Il est très bien.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas, mais en tout cas, son bouquin a l'air très intéressant.
Il est super.
Je vais me le procurer.
Et en plus, c'est un bel objet.
La semaine prochaine, pour être beaucoup plus concret dans notre jour de science, eh bien, on va parler d'algues. Alors, ça paraît, on va presque dire superficiel, mais quand vous aurez avec nous, au bout du fil, notre spécialiste, la semaine prochaine, vous verrez qu'elle nous amènera du fin fond des océans, avec des algues géantes, aux endroits enneigés où il y a de petites algues rouges sur la Terre qui vivent ici, à celles qui arrivent à grimper aux arbres, d'autres qui peuvent considérablement améliorer notre santé, et puis des spécialistes locaux qui nous parleront de la posidonie, de ce qu'on peut en faire. On est aussi un tout petit peu dans le développement durable avec ce type de végétal. Ce sera passionnant de rentrer dans cet univers dont plein de bouquins peuvent vanter la richesse.
Un bain d'algues, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Cléopâtre en prenait déjà, mais on en a parlé la semaine dernière.
Mais avant, il y a quelque chose que j'attends chaque fois avec impatience, c'est l'énigme.
Alors, cette semaine, pour le coup, l'autopromotion de ce jeune homme dont vous parliez tout à l'heure, on va faire gagner son livre « Des plantes et des hommes », 150 chroniques végétales de Corse et du bout du monde. Ce bouquin sera déposé dans la boîte aux lettres du premier ou de la première qui nous enverra la bonne réponse à l'adresse suivante, jeurcfm@gmail.com. L'énigme, la voici. On tend bien l'oreille et on cherche un lieu mythique relatif aux déchets. Du haut de ma colline huileuse, c'est sûr que je peux voir Aurélien faire le mur. Du haut de ma colline huileuse, c'est sûr que je peux voir Aurélien faire le mur. Voilà l'énigme du jour et on remercie encore une fois Christian Duquesnoy d'avoir été avec nous. C'était un bonheur de parler déchets, ce qui paraît quand on le dit comme ça absolument étonnant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine du côté des algues dans une émission qui a quel nom déjà ?
C'est votre jour de science avec Fabrice Fenouillère.
Et on part en campagne.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause et troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie mâle, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!